c'est la voix du grand photographe américain Sal Letter qui vous accueille en ce samedi 18 août.
Pourquoi est-ce qu'un photographe, pourquoi est-ce qu'un peintre met cette couleur à côté de cette couleur? Picasso, un jour, a dit qu'il voulait utiliser du rouge, mais bon, il n'en avait pas, alors il a pris une autre couleur.
Non, ce que je vous demande, c'est pourquoi vous avez besoin de peindre et de faire des photos?
Je ne sais pas, moi, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les artistes ont besoin d'être artistes? Pourquoi les poètes sont des poètes? Vous savez pourquoi? Les danseurs aiment danser.
I don't know.
Regardez voir la photo sur France Inter.
Bonjour et bienvenue avec les YYYY de Sal Letter. Pourquoi lui? Parce qu'il fait partie de la collection de mes invités, Florence et Damien Bachelot, qui ont eu une relation privilégiée avec lui et sa couleur. Ils ont acheté un peu plus d'une quarantaine de ses tirages. Ils vont tout vous raconter. En fait, j'ai découvert une partie de leur collection de photographies quand elle était exposée pendant 2 mois à l'Hôtel des Arts de Toulon au printemps de cette année. Une sélection de photos époustouflantes qui laissait entrevoir l'étendue de leur collection, sa qualité avec des tirages d'époque. Cette collection de photographies est née au sein de l'entreprise de Damien Bachelot, entreprise de conseil stratégique et financier. Et puis, elle est devenue collection privée avec 2 regards qui se complètent, celui de Florence, qui est médecin, et celui de son mari. Je vous invite à entrer dans cette histoire qui est à la fois celle d'un couple, celle de la photographie, et la nôtre, puisqu'une grande partie de la collection Bachelot s'attache à une réflexion sur la place de l'homme dans la société.
Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
En 2014 déjà, vous aviez montré votre collection à Chalon-sur-Saône, au musée Nicéphore Niépce, sur une proposition de François Cheval, alors directeur du musée. D'ailleurs, je vous remercie d'être là, d'en regarder voir. Dans un premier temps, je voudrais qu'on regarde vos débuts dans la collection, puisque vous êtes intéressé à la photographie française humaniste. Donc, on retrouve tous les Bouba, Brassailles, Doisneau et d'autres. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette collection avec cette ligne-là, les humanistes?
Alors, il y a eu un concours de circonstances et un goût. Donc, le concours de circonstances, c'est que c'est le moment où les fonds des grandes agences françaises s'ouvraient, il y avait des pièces exceptionnelles à disposition. Très franchement, à l'époque, on n'avait pas conscience de ça, puisqu'on arrivait dans la photo, mais on avait autour de nous des conseils. On s'est immédiatement entouré de conseils qui nous ont dit « vous devriez aller sur ce marché-là ». Deuxième chose, c'est que c'était à l'époque des photographes qui intéressaient quand même pas énormément ni les institutions ni les gros collectionneurs, donc on avait assez facilement accès. Et la troisième chose, c'est que pour une démarche de communication au niveau de l'entreprise, c'était assez en ligne avec ce qu'on voulait transmettre, c'est-à-dire... Vous nous avez dit que j'étais conseil, je vous ai dit stratégique et financier, mais ne nous trompons pas, souvent la finance est perçue comme quelque chose d'assez sèche, assez rébarbatif, voire déshumanisé. Et là, pour nous, c'était un moyen de mettre aussi notre communication financière autour de valeurs qui nous correspondaient, puisque tout en étant financier, on considérait qu'on avait quand même une grosse approche de l'humain.
Oui, mais là, vous me parlez des valeurs de l'entreprise.
Oui, mais on a eu cette volonté dès le départ de vouloir... ne pas présenter dans le cadre de l'entreprise et donc dans le cadre de notre société, puisque c'est une société qui avait été créée par moi et mes associés, donc on était, mes associés et moi, on était très très proches de cette entreprise. Donc on voulait quand même communiquer sur ce qu'on était nous, les associés. Par exemple, on a décidé de ne pas présenter des photos violentes, de ne pas présenter des photos choquantes, de ne pas présenter des photos trop abstraites.
Oui, mais au sein de l'entreprise, d'accord, mais est-ce que au sein de votre couple, c'était tout simplement évident de garder cette même ligne, Florence Bachelot?
Pour moi, oui, je me suis même pas posé la question. Cette collection, elle avait été initiée en ce sens. C'est vrai que ça correspond aussi
aux valeurs qu'on avait envie de véhiculer ou ce sont des sujets qui nous interpellent, c'est des sujets qui sont toujours d'actualité. Donc, et ensuite, ce sont des sujets qui ont continué au travers des street photographeurs américains aussi. Donc, tout ça s'est finalement articulé sans qu'on se pose de questions spécifiquement. C'est vrai que cette collection, elle s'est faite au début. Damien dit souvent qu'on n'avait pas l'impression de faire une collection au début, et c'est vrai. Au début, on a acheté des photos, et petit à petit, ces photos sont accumulées et ont commencé à constituer une collection. Et le regard des autres aussi, on a fait une collection aussi. Donc c'est comme ça un petit peu que tout ça s'est articulé.
On va prendre le regard d'une personnalité de France Inter. Elle s'appelle Séverine Bastin, elle est responsable des réseaux sociaux. Elle regarde l'une de vos photographies, nous la décrit. Elle ne sait évidemment rien de son auteur.
C'est une photo en hauteur. Elle est noire et blanc, vaguement sépia. Ou alors c'est parce qu'il faut que je mette mes lunettes. C'est un homme de dos, en salopette, torse nu. De dos, on voit qu'il est fatigué et détendu. Et il regarde ce que j'imagine être sa femme et ses deux enfants. Trois enfants même, il y a une petite fille qui a l'air d'être cachée par la jupe de sa maman, à travers la porte d'un baraquement. Donc sa femme qui lui montre un petit bout de chou dans les bras, tout dodu, potelé et souriant. Le fils aîné, c'est le fils aîné, c'est une femme, je ne sais pas, qui regarde le petit bout de chou. Et on voit deux jambes d'une petite fille cachées derrière la jupe de la mère. Il a l'air de faire beau. C'est pas seulement parce qu'il est torse nu, il a l'air de faire chaud et beau. On croirait une photo tirée d'un film d'Elia Kazan. Dans le coin en bas à droite, un peu surex, il y a un chien qui regarde cet homme de dos, cet ouvrier. Ça respire le bonheur et la détente, cette photo, et le travail aussi. Il a les mains calleuses, il a les mains noires. Et le chien qui regarde, cet homme qui regarde sa femme, ça me fait penser au passage d'Amélie Poulain, où Amélie Poulain aide un aveugle à traverser la rue et elle lui décrit tout ce qu'il y a dans la rue. Et elle lui dit, il y a une petite fille qui regarde un chien qui regarde une vitrine. Ben, on a un peu l'impression d'être la vitrine. C'est une photo très joyeuse et très forte.
Merci Séverine Bastin, Florence Bachelot, Damien Bachelot. Qu'avez-vous à dire à Séverine qui ne connaît pas l'auteur de cette photographie, qui est alors, la vôtre d'ailleurs, bien ouais. sûr.
Alors déjà, c'est une photo de Henri Cartier-Bresson qui a été prise en 1955, qui s'appelle L'écluse de Bougival. Et ce qui a été dit est très touchant parce que ce qui est touchant, c'est la perception du bonheur. Et ce qui est très intéressant dans cette photo, c'est justement les lignes de regard. C'est-à-dire que c'est une photo qui s'articule autour des regards aussi bien du chien vis-à-vis de l'homme vis-à-vis de l'enfant, des mères vis-à-vis de l'enfant, et qui a un côté quasi religieux, je dirais presque christique, parce qu'on a l'impression que c'est presque une présentation de l'enfant Jésus, qui est complètement centrale dans la photo, et en même temps c'est une photo extrêmement populaire, laborieuse dans le sens voilà du terme du travail, et c'est une photo d'une grande grande douceur. Mais je pense qu'il y a une dimension quasi religieuse dans cette photo de la famille heureuse, un peu sans que ça soit du tout voulu, du moins. C'est un peu la Sainte Famille dans l'aspect le travailleur, les gens humbles. C'est une toute petite photo, du moins c'est un tout petit tirage, puisque c'est une photo quand même qui est très connue, qui a été reproduite. Donc nous, on a un tirage qu'on appelle dans notre jargon franglais un vintage, c'est-à-dire une photo d'époque. Et ce qu'il y a d'extraordinaire quand vous avez ce tirage entre les mains, c'est que vous avez une photo d'une force incroyable, et vous l'avez vu Brigitte à l'exposition, et en même temps c'est un tout petit format, puisqu'elle fait 6 cm sur 10 cm.
Oui, c'est exceptionnel, on s'approche et on est vraiment en toute intimité voilà. avec.
Et je crois qu'il y a quelque chose de très important à dire, notamment pour tous les amateurs ou les nouveaux amateurs de photos, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans des formats énormes, écrasants pour avoir une bonne photo. Ça ne veut pas dire qu'un format énorme, écrasant n'est pas une bonne photo, mais vous pouvez avoir des petits bijoux sur des toutes petites photos. C'est un peu pour ça qu'on l'a sélectionné. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même un problème dans la photo, et notamment dans la photo d'époque, c'est la conservation de la photo et l'impact de la lumière sur ces photos. Donc ce sont nous des photos qui sont dans des boîtes, qui sont la plupart du temps stockées dans des musées qui ne sont pas à la maison, que l'on utilise et que l'on présente dans le cadre d'expositions. Et quand elles ont été présentées pendant un mois ou deux dans les expositions, elles repartent après pendant plusieurs mois dans les boîtes justement pour les reposer. Et c'est pour ça que pour nous, c'est aussi important d'avoir des expositions ou des livres. Ça nous permet de vivre aussi avec et de les présenter.
Et c'est l'histoire d'un Français tombé amoureux du Brésil, Nicolas Sonne.
Amanhã já era, é hoje, hoje que te espero. Amanhã já era, é hoje, hoje que te espero. Amanhã já era, é hoje, hoje que te espero. Amanhã já era. Você quer voar, mas não tirou brevê. E agora? Será que você quer pousar? E agora? Será que você quer casar? E agora? Será que não vai dar? Que da hora seria só viajar?
Cet après-midi dans Regardez voir, je reçois Florence Bachelot, Damien Bachelot qui sont collectionneurs. J'ai découvert leur photographie à l'Hôtel des Arts à Toulon, c'était au début de l'année. Il y a aujourd'hui le catalogue que vous pouvez voir, qui est aux éditions Clémentine de la Ferronnière et qui s'intitule « Des villes et des hommes, regard sur la collection Florence et Damien Bachelot ». Tout à l'heure, on regardait cette photo d'Henri Cartier-Bresson. Au début, quand vous avez commencé à constituer votre collection, vous n'achetiez que du noir et blanc, Florence Bachelot.
Alors, pas forcément. C'est vrai que les humanistes français sont beaucoup en noir et blanc. Mais le noir et blanc n'est pas un dictat, en tout cas, pour nous. Ça dépend effectivement des photographes dont nous aimons les tirages et... Les Soul Letter sont en couleur, les Cartier-Bresson sont naturellement en noir et blanc. et les photographes contemporains sont en couleur la plupart du temps. Donc ça dépend vraiment des coups de cœur qu'on peut avoir sur les photographes et sur les photos que nous voulons acquérir.
Qui vous conseille ? Avez-vous des conseillers, des commissaires d'expo, des directeurs d'institutions que vous consultez régulièrement quand vous avez envie, besoin ou que vous découvrez une photographie ?
Alors,
Damien ?
Historiquement, on a été d'abord conseillé par Sam Sturze,
qui est le directeur des rencontres d'Arles.
Maintenant le directeur des rencontres d'Arles et qui a été notre premier expert à l'époque où il n'avait pas de fonction officielle. Et il nous a énormément formés et il nous a énormément aidés à rencontrer, je dirais, les différents acteurs de cet univers ou de cette scène. Aujourd'hui, Sam ne nous conseille plus, il a arrêté de nous conseiller à partir du moment où il a pris des fonctions au musée de l'Élysée à Lausanne. Mais on a créé au fil du temps un environnement de personnes qui viennent nous parler, nous proposer, et puis on apprend quand même à connaître. Le fait que la collection soit reconnue professionnellement fait qu'on nous présente des œuvres, propose, et qu'on s'enrichit de toutes les rencontres que l'on fait. Que ce soit des rencontres d'artistes, que ce soit des rencontres de galeries, que ce soit des rencontres de commissaires.
Et vous achetez, j'imagine, des livres, vous vous renseignez sur les photographes que vous avez envie d'approcher. Aimez-vous les rencontrer, ces fameux photographes contemporains, évidemment, qui sont vivants? Aimez-vous avoir un lien avec eux? Ou alors, est-ce juste nécessaire d'avoir la photographie et de ne pas entretenir une relation d'amitié avec eux, Florence Bachelot?
C'est la grande chance que nous avons, justement, c'est de pouvoir rencontrer les photographes vivants, naturellement, soit à Arles, soit lors de grandes manifestations comme Paris Photo, mais c'est vrai que c'est souvent à Arles ou à New York même, effectivement, que les gens ont un peu plus de temps et qu'on peut les rencontrer. Et cette collection, c'est ce que j'aime à dire, c'est surtout finalement un partage justement des photos qu'on a choisies, mais aussi un partage et des rencontres qu'on fait justement avec toutes ces personnes, que ce soit les photographes, les galeristes ou les experts en photographie. Et c'est très très enrichissant pour nous.
Alors moi, Damien, je vais être un peu plus, du moins paradoxal, c'est que on apprécie énormément cette rencontre avec les photographes, même on s'en nourrit, sauf dans la phase d'achat. Alors pourquoi sauf dans la phase d'achat? C'est que comme on n'a pas la prétention de savoir ce que c'est qu'un bon artiste, un mauvais artiste, une bonne photo, une mauvaise photo, nous on a la prétention d'aimer ou de ne pas aimer, ou que ça rentre ou pas dans le budget qu'on s'est défini. Et c'est très difficile quand vous êtes face à un artiste qui est dans l'attente de ça, d'être dans la phase « j'aime votre œuvre » et elle rentre dans notre collection. Et notamment en ce moment pour les jeunes artistes, ce qui a été le cas avec Adrien Boyer, le fait de rentrer dans la collection, d'être exposé à la suite de Arles, il a dû avoir 3 ou 4 papiers dans l'IB, dans l'UMA, dans différents supports. Et c'est vrai que c'est pour eux un coup de projecteur énorme. Et d'être face à eux et de susciter de la déception si on n'est pas dans cette phase-là, pour nous, c'est pas facile.
Donc, oui, c'est dur, oui.
Voilà. On cherche pas, on se positionne pas comme des experts, on se positionne comme des amateurs. Et donc, vraiment, on apprécie rencontrer ces artistes et on a eu la chance d'avoir une relation exceptionnelle avec Sol Leiter. Mais dans la phase d'achat, on préfère ne pas être confronté à leur attente.
Comme vous parlez de la phase d'achat, combien il y a de phases dans le processus d'achat d'une œuvre photographique? Il y a la découverte.
Voilà, première phase, la découverte. Voilà, on va dans une galerie, on va...
Vous n'allez pas sur le bon coin quand même?
Alors paradoxalement, ça va vous faire sourire, mais il y a certaines photos qui ont été exposées à Chalon et à Toulon, que l'on a acheté sur eBay en tapant le nom de l'auteur et en voyant remonter des choses qui nous plaisaient.
Mais comment êtes-vous sûr qu'il s'agit du bon auteur et que la photo est bien celle que vous avez envie d'avoir?
Alors,
il y a les experts après qui s'approchent de vous?
Alors je pense que nous, on a quand même atteint aujourd'hui un certain niveau d'expertise. Ensuite, on se trompe. Et je me souviens très bien d'avoir acheté des photos de Gilles Caron, dont la grande exposition à l'hôtel de ville de Paris a montré tout le talent. Et sur eBay, j'ai acheté quelques photos de Gilles Caron. Et quand je les ai présentées à Marianne Caron, sa veuve, elle m'a dit « Mais Damien, ça, c'est pas des photos de Gilles. » Donc j'ai rappelé le vendeur en disant « c'est pas des photos de Gilles Caron ». Il m'a dit « il n'y a pas de problème, je vous les rembourse ». Alors on parlait d'achat à valeur de 20 ou 30 euros la photo. On ne parlait pas de sommes énormes. Mais effectivement, on peut se tromper. Alors c'est plus facile de se tromper quand vous achetez une photo 30 euros que quand vous achetez 1000 euros.
Évidemment. Alors on était à la phase d'approche.
Voilà.
Après, que se passe-t-il ?
Alors après, il y a la phase de réflexion et surtout où on doit, je dirais pas limiter, mais se contrôler pour pas acheter en impulsion.
Se raisonner.
Voilà, se raisonner. Et c'est là où on a ce dialogue avec Florence, on se dit non, il faut attendre. Donc maintenant, c'est fixé une règle, c'est qu'on n'achète pas sur l'instant.
Vous allez voir la photographie plusieurs fois peut-être. Florence, qui est le plus raisonnable dans votre couple ?
C'est Damien.
C'est vrai ?
Oui, je suis beaucoup moins raisonnable que lui, donc c'est lui finalement qui fait l'arbitre et qui arbitre tout ça et qui gère tout ça très très bien, plus que moi.
Donc là, on en était à la phase d'achat, après avoir réfléchi.
Alors ensuite, quand on se dit on va acheter cet artiste, qu'est-ce qu'on va acheter ? Parce que très souvent, c'est pas une recherche d'une photo, c'est la recherche d'un artiste. Donc on va pas prendre une photo. Et si on prend qu'une photo parce que les budgets sont élevés, laquelle ? Alors, petite anecdote, parmi certaines photos, on est avec nos enfants, on ne sait pas laquelle choisir et on implique nos enfants dans le choix. Maintenant, ils ont un goût assez sûr.
Mais combien vous en avez juste des enfants pour savoir si ça dure des heures, les réunions de famille ?
Nous avons trois garçons qui sont grands maintenant, mais... Mais c'est vrai que je pense que l'épisode auquel tu fais allusion, ils n'étaient pas si...
Oui, ils avaient une dizaine d'années. Était à une exposition de Véronique Elena, on avait eu un coup de cœur et on voulait prendre deux photos et on ne savait pas lesquelles choisir. Et on avait nos enfants qui avaient 8 ans et 10 ans peut-être et on leur a dit, c'est vous qui choisissez la photo. Et quand une des photos a été exposée à Toulon... Notre fils, qui avait 10 ans à l'époque et qui en a 23 aujourd'hui, nous dit « Mais papa, c'est moi qui l'ai choisi cette photo. »
Alors, on va la regarder tout à l'heure, cette photo.
Véronique Elena s'en souvenait très bien aussi.
Oui, c'est elle qui m'a dit « Mais c'est ton fils qui l'a choisi. »
On reste encore un peu avec les Américains, tout de même. Alors, avant d'écouter vos mots à propos des photographes américains que vous avez dans votre collection, je voudrais que vous écoutiez la voix de Kathleen Evin. Elle a dans les mains une photographie et elle ne sait pas de qui il s'agit. Par contre, vous connaissez Kathleen Evin, c'est la productrice de L'Humeur Vagabonde sur France Inter.
Alors cette photo m'a attirée parce qu'elle est très mystérieuse, je trouve. C'est-à-dire qu'on ne sait ni de quand elle date, ni où elle a été prise, ni pourquoi. C'est une photo qui est ouverte pour moi, c'est-à-dire qu'elle laisse l'imagination partir. Et en plus, le cadrage est assez intéressant puisque on y voit une trace dans la neige de voiture, et puis dans un coin en haut à droite, un tout petit bout de manteau féminin, sans doute, avec un tout petit bout de parapluie rouge. C'est la seule note de couleur dans cette grisaille, qui est aussi lumineuse quand même. Donc, on peut la lire de deux façons. Une façon gaie, quand si on est dans un jour d'optimisme, on y voit une femme qui se dépêche dans la neige, qui évoque aussi la pureté, l'enfance, et on voit cette femme qui se précipite avec son joli parapluie rouge vers un rendez-vous amoureux, qui sait. Et nous, on reste là, pataugés dans la boue froide, mais c'est pas triste. Et puis un genre de déprime, on va se dire, oh oui, la neige dans une ville, on a les pieds mouillés, en plus les voitures ont abîmé cette pureté. Et puis cette femme, au fond, elle est comme nous, elle se dépêche, elle a froid. Et voilà, mais j'aime bien cette photo parce qu'elle nous fait voyager.
Merci Kathleen Evin. Florence Bachelot, Damien Bachelot, qu'avez-vous à ajouter au mot de Kathleen ? D'abord le nom de ce photographe. Vous possédez plusieurs photographies de lui dans votre collection.
C'est une photographie de Sol Letter sur la série des photographies de couleurs. Et c'est vrai que ce qui est raconté sur cette photo, c'est merveilleux parce que c'est effectivement tout ce qu'on peut voir dans une photo, tout ce qu'on peut imaginer. Et ça s'accorde très bien avec la préface que Douglas Kennedy a faite dans notre livre, où il dit que la photo, c'est à la fois un instant, mais c'est aussi un récit. Et effectivement, cette photo, on peut y voir tellement de choses. Le fait qu'on n'ait pas de personnage en premier plan et qu'on le distingue juste effectivement en haut à droite permet d'imaginer des tas d'histoires autour de ce personnage. On retrouve bien la couleur rouge qu'on retrouve souvent dans les photos couleurs de Sol Letter et puis de ces paysages de neige, de rues new-yorkaises typiques.
Donc vous êtes tombé amoureux de Sol Letter, c'est cela, Damien Bachelot ?
On est tombé
de sa photographie.
On est tombé amoureux de sa photographie, mais on est tombé, si je puis dire, amoureux aussi du personnage, parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire, vraiment dans le sens premier du terme. Cette photo, on l'a choisie parce que bon, la partie Sol Later de notre collection est importante.
Combien avez-vous de photos de Sol Later ?
On en a 41, mais 41 dont presque 35 en cibachrome qui sont des pièces de musée. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on les prête beaucoup à des musées. Notre collection a fait l'objet d'un livre en tant que tel. Elle a été présentée à Lausanne, elle a été présentée en grande partie aussi lors de l'exposition à la Fondation Cartier-Bresson, on la prête un peu partout dans le monde. Alors, ce qui est très intéressant dans cette photo, je ne vais pas venir sur l'aspect histoire, mais sur l'aspect purement pictural, c'est que Sol Later a fait de la photo couleur à l'époque où elle n'était absolument pas appréciée comme une œuvre d'art, où la photo couleur avait été oubliée et laissée dans le champ de la photo commerciale. Donc la photo d'art, c'était la photo noir et blanc, et la photo couleur, c'était la photo commerciale. Donc Sol Later, pour vivre, faisait des photos commerciales, des photos de mode ou des photos de publicité. Et comme beaucoup de photographes, d'ailleurs, de cette époque, il aurait rêvé être peintre.
I have had, I mean, I cared about photography and I did photography and I took it seriously.
J'ai fait beaucoup d'intérêt pour la photographie, j'ai pris ça très au sérieux. De temps en temps, j'étais dans une forme de déclin et j'oubliais ce que j'avais fait.
And I liked to paint. I enjoyed painting.
J'aimais peindre.
I have the largest collection of Sol Lighters in the world.
J'ai la plus grosse collection de Sol Lighters au monde.
I think there is this thing, this secret yearning.
Sur cette aspiration secrète parmi certains photographes à devenir des peintres.
Cartier-Bresson,
à un moment donné, s'est dirigé vers le dessin. Tout le monde le connaît comme un grand photographe.
Et en fait, il a une approche de peintre sur cette photo, et c'est une photo où là, l'humanisme dont on a beaucoup parlé n'est pas présent, puisque c'est une photo vraiment visuelle, mm-hmm. dans laquelle il y a ce jeu de la neige. Alors,
Kathleen,
voilà, a été un peu sûrement, non pas perturbée, mais comme le tirage n'est pas exceptionnel, si elle avait le tirage, je ne pense pas qu'elle aurait eu cette même perception de tristesse qui vient beaucoup un peu du fondu de la neige, qui vient du tirage. Mais c'est une photo qui est vraiment l'œuvre d'un artiste peintre.
Mmh. Et il a des cadrages aussi toujours particuliers.
Oui, alors, ça c'est un point très très intéressant, c'est que qu'est-ce qui nous intéresse nous pour que un photographe rentre dans la collection d'une façon significative, c'est qu'il apporte une écriture dans la photographie. Alors c'est rarissime, mais Sol Later est quelqu'un qui a apporté une écriture dans la photographie, comme Joël Meyerowitz, comme tous ces grands photographes, ou en noir et blanc comme Irving Penn. C'est des gens où vous, quand vous avez la photo entre les mains, vous savez que c'est du Sol Later, vous savez que c'est du Penn, vous savez que c'est même du Cartier-Bresson pour parler, ou du Brassailles par exemple, hein. on voit ça. Mm-hmm. Et Sol Later a immédiatement travaillé sur les cadrages, sur les couleurs, sur les aplats. Il y a certaines photos, on peut penser à des Robco ou à Nicolas de Staël, où il y a des grands aplats de couleurs comme ça, et où on est vraiment dans le quotidien, dans l'aspect magique, mais en même temps aussi dans l'aspect presque peinture.
Pour donner un repère, il est mort en 2013,
oui.
À 89 ans, et donc vous l'avez rencontré.
Alors, plus que ça, on a eu la chance de l'accueillir à la maison, on a eu la chance d'aller chez lui à New York, on a eu la chance de créer des liens. Le terme amitié est un peu exagéré parce que c'était un très très vieux monsieur et qu'on ne le voyait pas très souvent, mais on avait vraiment beaucoup d'affection. Et il était extraordinaire de simplicité et c'est quelqu'un qui, à la toute fin de sa vie, est devenu quelqu'un d'extrêmement connu, de reconnu, mais à la fin de sa vie, à presque 90 ans. Et il avait gardé dans son œil cet aspect très heureux de cette reconnaissance, parce que comme tout artiste, il était bien sûr dans la recherche de la reconnaissance de son talent, mais en même temps, il n'était pas dupe de ça. Et il souriait, je ne vais pas rentrer dans les anecdotes, mais un jour, il me racontait qu'il était dans Paris, et puis il me dit, ah, il prenait des photos. Et puis, il regardait les photos. Il était assis dans le canapé à la maison. Il regardait avec son assistante les photos. Et je voyais que même des photos prises comme ça dans la rue à 90 ans, c'était des cadrages exceptionnels. Normalement, j'ai dit, dis donc, Sol, vous n'avez pas perdu la main. Il riait. Et puis, à un moment, il me dit, mais j'étais dans la rue et j'ai vu un couple de jeunes touristes asiatiques qui m'a demandé de les prendre en photo. Donc, je les ai pris. Ils ne savent pas qu'ils ont une photo de Sol Leiter.
Oh, c'est une très, très jolie histoire.
Vous marchez, Juliette, au bord de l'eau. Vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll. Sur une bande magnétique un peu folle. Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un pagué de l'autre côté du miroir d'un café. Dans la tire qui mène à Hollywood, vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène, vous coinceront Juliette dans la nuit américaine.
Je vous propose de rentrer avec moi dans la collection de Florence et Damien Bachelot qui sont avec vous sur France Inter cet après-midi. Florence et Damien Bachelot, que va devenir votre collection ?
Alors l'avenir rêvé, je pense, c'est qu'elle continue à se développer, qu'on implique de plus en plus les enfants et qu'un jour, familialement, on décide de la porter à une institution muséale française de préférence. On a déjà des sollicitations de musées étrangers, mais de notre cœur ira vers les musées français, avec la volonté ensuite qu'elle continue à être montrée et paradoxalement à vivre.
Vos enfants sont-ils intéressés par les photographies que vous achetez ? Florence Bachelot.
Oui, Damien va compléter, mais c'est vrai que les garçons, je dis les garçons parce qu'effectivement nous avons trois garçons, s'intéressent de plus en plus. Notre aîné vit à New York et fréquente assidûment certaines galeries de photos, notamment celle de Howard Greenberg, qui est un ami. Et les deux autres aussi sont vraiment de plus en plus intéressés par les photos, par la collection, par la manière dont elles se développent, par les achats que nous faisons. Donc c'est vrai que c'est pour ça que nous sommes heureux d'arriver à transmettre justement cette passion et de la partager en famille. Ça devient un vrai projet familial.
Et à leur tour, vous font-ils découvrir par exemple des photographes ?
Oui, tout à fait. Comme Florence le disait, notre aîné a fait ses études aux États-Unis et il nous appelle en disant « j'ai vu des choses », il nous envoie ce qu'il a vu. Donc il faut qu'on trouve l'équilibre entre les impliquer, c'est-à-dire pas systématiquement leur dire « c'est pas intéressant » et en même temps pas partir n'importe où. Mais ils sont de plus en plus. Je pense que les expositions comme celles que vous avez mentionnées nous permet de les initier, leur permettre de comprendre la chance qu'ils ont d'être au milieu de cet ensemble. Et ensuite, la dernière point, c'est que comme on est souvent avec des photographes vivants ou contemporains, il y a certains qui les prennent en photo ou on les intègre dans des œuvres qu'on nous demande de faire. Et donc, ça les amuse. Donc, il y a aussi un côté ludique.
Florence Bachelot, quelle est la photo qui vous a empêché de dormir pendant quatre nuits ? l'achat de la photographie qui vous a empêché de dormir.
L'achat que j'ai pu faire ou je n'ai pas pu faire, justement.
Alors, c'est vous qui allez me dire.
Parce qu'il y a une photo de Nan Goldin qu'on n'a pas pu avoir et que j'ai... Voilà, qui m'avait particulièrement touchée et que j'aimais.
Pourquoi ? Quelle était cette photo ?
C'était une photo de Nan Goldin avec un de ses compagnons sur un lit. Elle était de dos, assise, et il y avait une lumière. Moi, je suis très sensible aux couleurs, à la lumière, et c'est vrai que cette photo, pour une photo de Nan Goldin, était assez paisible.
Oui, et quand on connaît son travail, c'est vrai qu'il faut le remarquer.
Et puis, il y avait cette lumière, cette douceur, quelque part, malgré tout. C'était vraiment un instant particulier. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu l'acquérir pour X raisons. Et c'est vrai que je regrette et que ça m'a effectivement empêché de dormir.
Et vous, Damien Bachelot?
Alors, je pense à la même photo, puisque si ça empêchait de dormir Florence, c'est parce qu'elle m'a reproché qu'on ne l'ait pas vue. Et on ne l'a pas eue parce que c'était lors d'un pari photo. Et la plupart du temps, on dit au galeriste qu'on prend une photo et il l'a vendue sans nous le dire. C'était un très beau tirage de Nan Goldin en cibachrome. Et ce qui faisait la qualité aussi de cette photo, puisque c'est une photo très connue de Nan Goldin, c'était la qualité du tirage en cibachrome.
C'est le meilleur moment, pari photo, pour acheter des photographies. Il ne vaut-il pas mieux aller dans l'intimité des galeries, dans d'autres moments? Ou alors, parce que c'est Paris Photo, il y a le monde entier qui est là avec la photographie?
Alors franchement, il y a les deux aspects qui cohabitent. C'est-à-dire que vous avez la chance d'avoir tout le marché de la photo au même moment à Paris, ce qui est exceptionnel. Donc pour faire son goût, pour aller voir tous les grands artistes. Et c'est là quand même la foire d'art contemporain qui est mondiale la plus importante de la photo. Et on a la chance de l'avoir à Paris. C'est l'équivalent de Bâle pour l'art. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça ne doit pas être fait au détriment, justement, de cette capacité à se perdre, à fouiner dans les galeries. Et surtout, je dirais, dans les ventes aux enchères, parce qu'il y a vraiment des trésors qui passent. À nouveau, la photo a cet avantage extraordinaire que vous avez une gamme de prix qui va de quelques euros à beaucoup plus cher, mais qui vous pouvez faire une collection avec des moyens extrêmement modestes si vous ne cherchez pas à faire des coûts financiers.
Vous cherchez à faire des coûts financiers ?
Non, nous, au contraire, on fuit ça. C'est-à-dire que quand les cotes montent, pour nous, c'est plus une barrière pour nous permettre de continuer que quelque chose que l'on trouve positif. On n'est pas du tout dans une démarche mercantile, mais zéro.
Vous achetez des photographes contemporains, quelquefois jeunes. On a parlé d'Adrien Boyer. Vous avez dans votre collection aussi Stéphane Couturier. Vous avez Harry Grillart. Vous en avez d'autres. Comment les tout jeunes, peut-être vous en avez d'autres que je ne connais pas, mais comment vous les découvrez, puisqu'ils sont très jeunes et pas encore connus, justement, ceux-là? Comment faites-vous avec la jeune photographie émergente? Ou alors, faut-il être plus qu'émergent pour entrer dans votre collection?
Non, Adrien Boyer était vraiment émergent. Hein. C'est quelqu'un qui a un incroyable talent, mais je pense qu'il avait fait une exposition. On a d'autres photographes. Non, nous, on va au coup de cœur et aux rencontres. Donc, si on a la chance de rencontrer un photographe et on considère que son travail nous intéresse, à ce moment-là, il rentre dans la collection, même s'il est absolument tout à fait débutant.
Et inconnu.
Et inconnu, ah oui, ça pour nous, c'est pas du tout un critère.
On va regarder une photographie d'une photographe contemporaine, hein, puisque on l'a notamment rencontrée à Toulon. Je l'ai proposée à un réalisateur de France Inter. Il s'appelle Marco Mutel. Évidemment, encore une fois, il ne sait rien de la photographie en dehors de ce qu'il voit avec ses yeux.
Sur cette photo, on voit un portail. On a l'impression que c'est la devanture de l'Institut de France, l'Académie française, avec des colonnades, un grand portail, avec des lettres en latin écrites sur le frontispice. Il y a des marches qui mènent à un grand portail et sur ces marches, il y a une couverture qui, semble-t-il, recouvre quelque chose. On peut penser effectivement que c'est un SDF ou quelqu'un qui dort dans cette couverture, qui est dans les tons marron, comme la grande façade de cet édifice. Et ce qui est frappant, c'est que on voit l'histoire de ce grand bâtiment historique et en même temps l'histoire du présent qui est là, le présent quotidien et le présent aussi de la misère.
Marco Mutel, réalisateur à France Inter. Damien, vous souriez, Florence aussi, vous souriez tous les deux. Il a tout vu, Marco Mutel, avec la photographie de Véronique Elena. On va citer le nom de cette photographe, Florence.
Oui, il a tout vu, effectivement. C'est justement ce contraste entre ces bâtiments absolument sublimes de la ville de Rome qui sont photographiés à un instant très particulier du matin, parce que Véronique explique très bien sa démarche. Elle se promenait à l'aube dans les rues de Rome quand elle était pensionnaire à la Villa Médicis, et qu'elle est tombée en arrêt justement devant ses porches et devant les corps, effectivement, parce que ce sont des SDF endormis au petit matin, et qu'elle a ensuite tissé des liens particuliers avec ces personnages, avec ces personnes qu'elle a photographiées. Et cette série s'appelle Les Invisibles, justement en rapport avec ces SDF. Et c'est vrai que Véronique est quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on a rencontré justement lors d'un séjour que nous n'avons pas fait. Enfin, nous étions invités à la Villa Médicis à l'initiative de Sam Sturze, qui a aussi passé du temps à la Villa Médicis. Et elle était pensionnaire en même temps que lui, et il nous l'a fait rencontrer à ce moment-là, et c'est là où on a découvert son travail.
Et là, alors, dans l'exposition, enfin, quand je l'ai vu à Toulon, il s'agit d'un très grand tirage.
Il s'agit d'un grand tirage, pas d'un très grand tirage. C'est-à-dire que...
Pour moi, il est très grand.
Non, il est grand tirage, mais c'est un tirage qui est encore vivable dans un appartement parisien. Ce que j'appelle les très grands tirages, c'est quand vous êtes obligé de les stocker dans les musées, comme certains des tirages que l'on a, parce qu'on est passé dans l'art, je dirais, institutionnel. Donc là, c'est un tirage qui est tout à fait gérable.
Ce qu'il y a dans un grand appartement,
dans un grand
tout
appartement,
même.
Tout à fait. Non, mais c'est déjà gérable, oui. En poids, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire 500 kilos. Et ensuite, il y a quelque chose de très très important sur ce tirage, c'est que on voit que il y a la dimension purement esthétique du bâtiment, des couleurs, et la dimension sociétale dans le même tirage. Et on a souri tout à l'heure quand on écoutait le commentaire, parce que ça a été extrêmement bien perçu. Et dernière chose, c'est un peu un ange déchu aussi, puisqu'on aurait presque l'impression, comme il est exactement dans la couleur du bâtiment, que ça pourrait être une statue qui est tombée au pied de la porte.
Restez encore avec nous quelques instants, il me reste encore quelques questions à vous poser. Autant vous avouer que j'ai un faible pour cet homme-là, enfin ce chanteur-là, Arthur Ashe, avec sa Reine de cœur.
J'ai déjà oublié comment ne plus t'aimer. Comment stopper la machine infernale. J'ai déjà oublié comment ne plus t'embrasser. Elle m'hypnotise, ma déesse adorée. Chérie, chérie, laisse-moi te réchauffer avec les mots troublés de ton chenapan violent. Chérie, chérie, laisse-moi m'aventurer dans la beauté cachée de ma reine de cœur. J'ai déverrouillé le cadenas givré en embuscade. J'ai guetté ton arrivée. De l'autre côté de ce pays éphémère, j'ai dérobé des baisers de lumière. Chérie, chérie, laisse-moi te révolutionner en orbite tout autour de moi, reine de cœur. Chérie, chérie, personne ne décapite, même sous la terreur, ma reine de cœur. Chérie, chérie. Chérie. croise-moi déshabillé, robe des voilures, nuit sous l'armure. Chérie, chérie, laisse-moi t'évader de ton palais doré. Ma reine de cœur. Chérie, chérie, laisse-moi t'idolâtrer, primitif apprivoisé. Ma reine de cœur. Ma reine de cœur. Ma reine de cœur.
Florence et Damien Bachelot sont mes invités cet après-midi. Je disais tout à l'heure encore quelques questions. Je lisais dans un article en préparant cette émission que vous n'aimiez pas forcément le mot collectionneur. Mais peut-être cet article est-il ancien, parce qu'aujourd'hui vous êtes réellement identifié comme des collectionneurs. Et qu'est-ce que ce mot aurait de péjoratif ?
Il n'a rien de péjoratif, simplement il est souvent perçu comme étant une démarche de compilation, ce qui n'est pas du tout notre cas. Et on est devenu collectionneur par la collection, on n'est pas des collectionneurs dans l'âme en se disant on va monter une collection. C'est plus la chronologie qui a poussé notre approche en disant mais on ne se sent pas comme collectionneur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand vous avez une collection, vous êtes un collectionneur.
Bien sûr.
Mais la démarche n'était pas de collectionner.
Quelle est la ligne directrice de la collection aujourd'hui, en 2018, a-t-elle bougé ?
Alors la ligne directrice est très simple, ce sont nos coups de cœur, point stop.
Point stop à la ligne. Florence Bachelot. C'est-à-dire que si tout à coup, vous voyez Irving Penn, la photo dont vous me parliez au début, qui n'a rien à voir avec cette ligne que vous aviez au début dans l'humanisme, vous l'achetez. Enfin, vous essayez de l'acheter.
Alors aujourd'hui, on aurait du mal vu l'explosion des...
Oui, mais bon.
Mais oui, oui.
Mais oui. Oui, oui. D'accord.
Et dans certains cas, alors, on se donne quand même des limites parce qu'on ne peut pas partir dans tous les sens. Par exemple, nous, on a une attirance pour la photo japonaise. Et on ne cherche pas à avoir une ou deux photos japonaises. Et on se dit, si on va dans la photo japonaise, il faudra créer un ensemble. On est très attiré aussi par la photo sud-américaine, la photo un peu historique sud-américaine. On va un peu dans des champs où il n'y a pas encore tout le monde.
Oui, c'est ça.
Donc la photo américaine aujourd'hui, franchement, tout le monde est dessus.
Bien sûr, la photo humaniste aussi.
Oui, un peu moins parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de propositions d'objets dans la photo humaniste. C'est-à-dire qu'il y a souvent des tirages qui sont des tirages... qui ne sont pas des tirages d'époque et tout ça, on ne voit plus beaucoup de photos vraiment telles qu'on a pu les avoir avant. Mais oui, je pense qu'avec Florence, on ne se donne pas de limites, on a nos limites. Mais si demain on a un coup de cœur, mais on se rend compte qu'on a toujours les coups de cœur pour les mêmes choses. Par exemple, on n'a pas de photos de mode, on n'a pas de... Vous voyez, on n'a pas d'Avnon, mais ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas les photographes, c'est parce qu'on n'en a pas.
Allez, quel est votre dernier coup de cœur qui s'est avéré ? C'est-à-dire acheter. Vous réfléchissez.
Oui, alors moi je dirais c'est une photo qu'on a vue chez Magnum à Paris Photo de Matt Black qu'on a trouvé magnifique. Voilà, c'est une photo achetée à Paris Photo et une autre aussi sur un photographe qu'on suit depuis longtemps mais qu'on a vu le tirage et je reviens à mes obsessions de tirage. Et que vous avez vu
à Toulon,
c'était une photo de Bruce Davidson sur un immeuble à Harlem dans les années 70 avec des enfants qui jouaient sur les balcons extérieurs, je ne sais pas comment on appelle ça, et qui est une photo extraordinaire d'une simplicité absolue. Tirage magnifique. Et voilà un vrai coup de cœur.
Tout à l'heure, Florence, vous disiez un peu ce qui vous attirait dans la photo. Vous avez parlé de couleur. À quoi étiez-vous attentive ? La lumière, la couleur. Je ne vous ai pas demandé, Damien, vous, qu'est-ce qui vous marque forcément dans une photographie ?
Moi, c'est la structure de la photo. Mm-hmm. C'est-à-dire comment elle est structurée. Je pense à un photographe qui nous avait marqué. Mais les photos, quand elles sont mal structuré, quel que soit le thème, ne m'intéresse pas. Je pensais à Sergio Larraine, où j'avais eu la chance un jour de visiter l'exposition Sergio Larraine avec Joseph Kudelka. On était les deux dans la pièce. Bon, Joseph Kudelka, immense photographe extraordinaire, et il me dit « Damien, on va choisir chacun deux ou trois photos qu'on préfère ». Et j'ai vu qu'il allait vers les photos les plus mieux cadrées, les plus positionnées, et pas le thème. C'est-à-dire que c'est pas, le thème ne fait pas une grande photo. Il peut faire un grand message journalistique, il peut faire une histoire, mais il ne fait pas une grande photo, forcément.
Oui.
Donc moi, je vais d'abord vers la structure de la photo, la qualité voilà, du cadrage, du positionnement, amplifié par le thème.
Mmh. Peut-on dire un petit mot sur la photo qui fait la couverture du livre ? Ce qui est beau aussi dans votre collection, c'est qu'il y a des photographies inconnues de photographes très connus. En l'occurrence, là, il s'agit d'une photo de Doisneau.
Doisneau.
De quelle année, vous vous souvenez ? Vous ne savez plus, moi non plus, c'est pas grave. Mais cette photo, elle est... Moi, je ne l'avais jamais vue.
Non.
Est-ce normal de ne pas l'avoir vue avant ?
Oui, je pense que c'est normal parce que on enferme un peu Doisneau, à mon avis, dans un style. Et quand on voit ce qu'il a fait à côté de ce style, bon, des photos hyper connues qui sont souvent d'ailleurs des photos préparées, montées, non à monter, c'est-à-dire posées, mais ce qui n'enlève rien à la qualité extraordinaire de ces photos. Vous vous rendez compte, c'était un photographe absolument génial dans l'aspect photographe de rue qui s'arrêtait, qui voyait. On a des photos de lui, par exemple, de la guerre, de la libération de Paris, elles sont meilleures que les autres. Et nous, on aime beaucoup chercher les chemins de traverse.
1949.
Merci.
Grâce à Perrine. Oui. Nous connaissons la date de la photographie.
Merci Perrine.
Vous avez des documents pour chaque photographie. Là, tout à coup, je me dis, il faudrait une fiche pour chaque photo. J'imagine que oui.
Ah oui, bien sûr.
Elles sont toutes... Enfin, évidemment, quand on, votre collection est si importante, elle, tout
bien
doit
sûr,
être...
Il y a un travail, il y a un assistant qui travaille... à plein temps là-dessus, il faut d'abord, beaucoup de photos ont un pédigré qui est à l'arrière de la photo. Vous savez, beaucoup de gens écrivent à l'arrière de la photo quand il y a beaucoup d'informations. Et puis, c'est ce qui fait la qualité d'une photo, c'est du moins la qualité, c'est-à-dire la qualité de son tirage, mais de son histoire. C'est pas la même photo si c'est une photo qui a été prise, qui a été... Donc tout ça, on le regarde, on le recherche. Certaines fois, on ne le sait pas, c'est une recherche, oui, bien sûr.
Et si une photo a été tirée à de nombreux exemplaires, vous l'achetez ?
Alors, ça dépend si on parle des photos contemporaines ou des photos historiques. Les photos contemporaines, non, parce que ça, on ne l'achète pas, ça ne nous intéresse pas. Les photos historiques, ben, on va remonter vers ce qu'on appelle le vintage, c'est-à-dire vers la photo la plus historique, de meilleure qualité, parce qu'on va définir un marché qui est différent. Parce qu'entre un bon tirage d'aujourd'hui et une photo qui date des années 40, il y a, sur la photo elle-même, il n'y a pas de différence. Ce qui fait la différence, c'est l'histoire et le tirage de la photo.
Florence Bachelot, merci beaucoup d'être venue cet après-midi dans Regardez voir. Merci à vous. Damien Bachelot, merci. Continuez bien votre route avec cette belle collection. Au revoir.
Au revoir, merci Brigitte.
La collection de Florence et Damien Bachelot voyage. Ils ont prêté de nombreuses photos pour l'exposition Anne Ray, Les Inachevés, Lee McQueen aux rencontres d'Arles dans l'atelier des Forges, et aussi pour l'exposition, toujours à Arles, l'exposition de Véronique Elena au musée Réattu. À partir du 6 septembre, 50 de leurs photographies vont en Corée du Sud pour la Biennale de la photo, et puis 120 portraits de la collection vont en Italie à Milan, fin septembre. Et puis il y a encore, vous pouvez le trouver, le catalogue de l'exposition des villes et des hommes aux éditions Clémentine de la Ferronnière. Merci à Perrine Malinge, Marie-Hélène Fauquet pour la réalisation, Thierry Dupin pour la programmation musicale et à la technique, Valentin Hazan Zielinski. Sur la page Regardez voir, vous pouvez voir les photos dont on a parlé, les liens, les adresses et bien sûr le podcast de tous les Regardez voir depuis le début. Je vous donne rendez-vous demain à 14h avec trois invités, Emmanuel Brisson, Julien Magre, Dorian François, trois photographes qui travaillent avec un matériau difficile, l'intimité. Dans un instant, juste après les informations, vous avez rendez-vous avec la série des médias francophones publics. Appelez-moi Johnny. Bel après-midi à vous avec France Inter.
Merci Brigitte Patient et à demain. 14h57 sur France Inter, Orelsan et Stromae.
Sur la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place. Julien Clerc dans le monospace, je freestyle est dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau. Il fait beau. Chez moi y'a du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermé dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau.
C'était Stromae et Orelsan sur France Inter. À suivre, appelez-moi Johnny. Vous écoutez France Inter, il est 15h.